Prix d'un, Elisabeth, oui, la maison ne se refuse rien. Deux chiffres du jour, en l'occurrence, 89 et 72. 89, c'est le nombre de députés du Rassemblement national. 72, le nombre de députés de la France insoumise. Donc, ces deux groupes, qui sont les deux principaux groupes d'opposition, qui s'opposent, qui s'affrontent à peu près sur tous les sujets, d'ailleurs, ont obtenu, ils s'affrontent sur tous les sujets, mais sur celui-ci, sur le projet européen, la contestation du projet européen et la dénonciation du fonctionnement des institutions européennes. On va dire qu'il y a une convergence pour critiquer l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui de la part du RN et de la France insoumise. 89 plus 72, ça fait 161. C'est donc une nette poussée des députés eurosceptiques, eurocritiques ou europhobes. Comment est-ce que cette poussée est perçue, Jean Quatremer, du côté de la Commission européenne de Bruxelles ?
Pas seulement de la Commission européenne, c'est pas elle qui fait de la politique, mais de l'ensemble des États membres qui sont à Bruxelles. En l'occurrence, c'est pas vraiment véritablement surprenant. On est plutôt surpris à Bruxelles que enfin il y ait des eurosceptiques à l'Assemblée nationale, parce que c'est même leur poids, ça devrait être à peu près 70% de l'Assemblée nationale en réalité les eurosceptiques.
400 députés.
Mais c'est la réalité. Je veux dire que lorsque vous additionnez le vote de Marine Le Pen, le vote de Jean-Luc Mélenchon au premier tour et le vote de tous les eurosceptiques, vous arrivez à peu près à 60%, allez, on va être gentil, et c'est ce qui devrait peser aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Alors, vous allez me répondre que...
Donc, il n'y a pas d'inquiétude de la part des États membres, Bruxelles, vous écoutez.
Mais disons que simplement,
ça ne change rien.
Voilà, ils s'y attendaient, ça ne change rien. Ce qui les a rassurés, ça a été la réélection d'Emmanuel Macron, parce qu'ils savent très bien que le pouvoir exécutif en France est fort, et qu'il ne dépend pas, dans les matières européennes, les matières internationales, de l'Assemblée nationale, sauf si il faut voter un texte, transposer une directive, etc., etc. Pour autant, le fait que Emmanuel Macron n'ait pas eu une majorité absolue, comme c'était le cas depuis très longtemps, clairement, ça le fait trébucher au moment où l'Europe justement manque de leadership, c'est-à-dire Scholz n'arrive pas à s'imposer le chancelier allemand n'arrive pas à s'imposer dans sa coalition, et Mario Draghi va connaître des élections au printemps prochain et est déjà fortement contesté.
Et Hélène Mire de la Croix, quelle réception à Berlin, en Allemagne ?
Alors, à Berlin, en Allemagne, notamment dans les médias, il y a un mélange d'incompréhension sur qui a gagné vraiment. Enfin, ils sont pas tout à fait au clair sur ce point. On est un peu rassurés sur le fait qu'il y a un Parlement et qu'il y a des forces différentes. Mais en même temps, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude pour l'Europe et pour soi. Et puis, il y a un peu de soulagement quand même, parce qu'au milieu, les forces qui soutiennent Emmanuel Macron ont l'air suffisamment solides. Mais... quand même, l'idée principale, qui est depuis le mois d'avril, c'est-à-dire depuis les présidentielles, est de considérer que Emmanuel Macron est, d'une certaine façon, le dernier rempart contre les populismes, contre la radicalité. Et on est surtout en Allemagne toujours plein d'incompréhension face à l'habitus, notamment de Jean-Luc Mélenchon, face au vocabulaire employé et face à ce qui est perçu comme des excès. Après, on parlera de la capacité des Français à faire des coalitions.
On en parlera plus tard. Oui, après.
David Kella, du côté des autres capitales européennes, après tout, le projet européen n'est pas contesté que par ces députés-là. Il est contesté aussi dans d'autres pays européens, par des mouvements politiques assez puissants. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, des pays, on peut penser peut-être à la Hongrie, à la Pologne ou à d'autres, qui ont aujourd'hui un regard critique sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui pourraient se satisfaire finalement de voir que cet euroscepticisme progresse en France?
Oui, alors je ne sais pas si... encore une fois, si c'est vraiment un euroscepticisme qui s'est déclaré, parce que finalement, ce vote aux élections législatives, il n'est pas pour but la question européenne, c'était plutôt un vote anti-Macron. Mais il est clair qu'il y a des tensions au sein de l'Union européenne, des tensions économiques, des tensions politiques, des tensions sur ce que doit faire l'Union européenne. Et en fait, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, vous savez, vous vous souvenez, il y avait ce grand discours de la Sorbonne, il était très ambitieux. Finalement, il n'y a pas eu... tant de choses que cela. Quand on relit le discours aujourd'hui, on voit qu'il y avait beaucoup de belles paroles. Après, la réalité concrète de l'Union européenne, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup de compromis, où on est obligé d'avancer à petits pas.
Et, quand vous dites compromis, dans le sens de compromission
de compromis dans le sens que, par exemple, il a fallu quand même la crise du Covid pour qu'on ait un endettement commun, mais cet endettement commun, il est quand même... voilà, c'est 750 milliards, mais il y a que la moitié...
Le plan de relance,
mais finalement, il y a que la moitié qui sont vraiment des subventions, et puis il n'y a pas encore d'impôts et de taxes qui sont vraiment mis dessus. Donc on a toute une réflexion sur la fiscalité européenne qui doit être faite. Et puis on a effectivement deux pays, comme la Hongrie et la Pologne, qui sont un peu au banc de l'Union européenne parce qu'elles ne respectent pas le principe de l'état de droit, en fait. Et d'ailleurs, il y a des vrais problèmes dans ces deux pays. Et donc, on a quand même un système qui est très, très hétéroclite. Mmh. Et donc, finalement, l'affaiblissement d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même ça dont il s'agit ici, ça empêche effectivement... ça rajoute du brouillard aux choses.
Ça rajoute de la confusion.
Mais après, ce que faisait Emmanuel Macron quand il était soi-disant dirigeant européen, c'était non plus pas très clair. Donc bon. Voilà. Donc savoir ce qui va se passer maintenant, c'est quand même très compliqué.
Bon, on va quand même essayer d'éclaircir deux trois points. En l'occurrence, la germanophobie de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen.
Oui, parce que vous parliez des outrances. Effectivement, aucun des deux ne cache son ressentiment vis-à-vis de l'Allemagne et du poids qu'elle représente dans l'Union européenne, tant sur le fond que sur la forme. D'ailleurs, du côté de Marine Le Pen, la sortie la plus tonitruante, elle remonte à 2015. C'était au Parlement européen à Strasbourg. François Hollande et Angela Merkel venaient conjointement de lancer un appel à l'unité de l'Union européenne face aux crises, notamment la crise des réfugiés. L'eurodéputé Le Pen, donc, avait pris la parole pour traiter François Hollande de vice-chancelier administrateur de la province France. Et je vous laisse observer les mines des deux dirigeants. Plus récemment, lors de la présidentielle de 2017, ça c'était pendant le débat d'entre-deux-tours, elle avait décrit, je la cite toujours, une Europe à la Schlag. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, l'hostilité à l'endroit du couple franco-allemand est tout aussi décomplexé, on va dire. On se souvient en particulier de ce tweet, évidemment, qui avait été posté par le leader insoumiste en 2014. Angela Merkel venait d'appeler la France à se réformer en profondeur et Jean-Luc Mélenchon lui répondait ceci. « Ta gueule, Merkel, la France est libre, occupez-vous de vos pauvres et de vos équipements. » La presse allemande, les médias allemands n'en étaient pas revenus. Un an plus tard, paraissait son livre « Le Harand Bismarck » dans lequel il écrivait que l'Allemagne est de nouveau un danger et l'admire de la croix. Comment est-ce que ces propos outranciers ont été reçus par les dirigeants allemands? On le devine un peu, mais surtout, est-ce que la donne a changé depuis le remplacement de Merkel par Scholz? Est-ce que ça a évolué?
Non, pas tellement, parce que comme Jean-Luc Mélenchon a été très très présent dans la campagne, alors il n'y a pas eu d'attaque là cette fois-ci directe contre l'Allemagne, mais enfin c'est quand même le même répertoire, et c'est ça qui porte d'ailleurs l'analyse en Allemagne à dire que les extrêmes se rejoignent, c'est-à-dire que les propos de la France insoumise, ou plutôt de Jean-Luc Mélenchon en tant que personne, le Rassemblement national se retrouve...
Là, il les renvoie dos à dos.
Oui, il les renvoie dos à dos parce qu'il retrouve exactement le recours à un même répertoire qui est fantasmatique en France et qui fait secouer la tête d'incompréhension en Allemagne. Je rappelle aussi que Marine Le Pen avait parlé de M. Schäuble à l'époque, vous vous rappelez, qui était président de l'Assemblée nationale, du Bundestag, et qui était venu en France. Elle avait parlé de M. Schäubles. Oui, Schäubles, Goebbels.
Enfin, oui, on avait compris l'allusion.
Ce sont des ficelles quand même extrêmement lourdes. Et je me demande dans quelle mesure elles ne sont pas contre-productives parce qu'ils perdent toute crédibilité. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ça fait peur. L'idée que de telles personnalités puissent arriver à des responsabilités fait vraiment peur et inquiète. Je ne sais pas dans quelle mesure ils arrivent à mesurer le second degré du message qui est envoyé aux Français, parce que peut-être on pourrait dire que c'est une façon codée de dire aux Français, regardez, nous allons penser à vous d'abord et non pas à une Europe où vous seriez inférieure. Mais bon, on ne comprend pas bien en Allemagne.
C'est un raccourci que de les envoyer dos à dos.
Bah oui, quand même, un peu. Et puis par ailleurs, Mélenchon n'est pas député. Hein, donc, d'ailleurs, la vraie question qu'on peut se poser, c'est que va devenir la France insoumise à l'Assemblée? Quelle politique elle va mener? Parce qu'il y a quand même beaucoup de députés qui n'ont pas forcément les mêmes positions, et y compris sur l'Union européenne. Parce qu'en réalité, quand on compare le programme de Mélenchon de 2017, où c'était soit on la change, soit on la quitte. Hein,
le plan B. Préconisé un plan B.
Ça a disparu du programme de la NUPES et du programme même de...